Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans l'œil de Sab. Comme à chaque fois, nous prenons le temps de regarder un parcours, mais surtout une personne, parce que derrière chaque sourire, chaque éclat de rire, il y a une histoire faite de rêves, de combats et de miracles. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un invité que vous avez découvert en 2024 sur M6, dans l'émission La France, un incroyable talent, un humoriste solaire, virtuose de la répartie, qui transforme le quotidien en éclat de rire. Vous avez peut-être pu le voir sur scène dans son spectacle Mauvaise Nouvelle. C'est Merwan Sali qui est avec nous ce soir. Bonsoir Merwan Sali.
Bonsoir Sabrina.
Merci d'être avec nous.
Ben, merci à toi de l'invitation, ça fait hyper plaisir. Hein.
Ah ouais.
Déjà de la description, je kiffe là. J'ai envie d'aller voir ce spectacle moi.
Ben justement, parlons de votre spectacle qui fait déjà beaucoup parler. Vous vous racontez en toute sincérité l'humour et votre force, votre répartie et votre sens de l'improvisation sont vos armes.
Exactement.
Alors, dites-nous si vous deviez faire justement découvrir Mauvaise Nouvelle à quelqu'un qui n'a jamais vu votre spectacle, comment lui raconteriez-vous ce moment ?
Ben, je pense que la phrase qui résume un peu mon spectacle, c'est l'humour, c'est tout ce que j'ai. Et depuis que je suis tout petit, l'humour, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai voulu transmettre aussi dans ce spectacle et de comprendre à quel point l'humour, ça peut aussi être une force dans la vie. Voilà, si je te fais un petit résumé de mon spectacle, en toute humilité, évidemment.
Mais pourquoi avoir choisi ce titre Mauvaise Nouvelle ? Est-ce que c'est pour vous une manière de transformer des épreuves en quelque chose de plus léger ou presque en force ?
Exactement, c'est Mauvaise Nouvelle, ça veut tout dire. C'est-à-dire que ça résume un peu aussi le spectacle. J'ai reçu des mauvaises nouvelles dans ma vie. Comment j'ai transformé ces mauvaises nouvelles en quelque chose de, on va dire, de positif, en quelque chose qui me fait rire et en quelque chose qui fait rire les autres aussi. C'est un peu pour ça qu'on a choisi ce titre.
Mais comment trouvez-vous l'équilibre entre l'émotion et l'humour dans vos textes ?
Ben, ça se fait naturellement en réalité parce qu'en fait, je raconte comme je le vis. Et moi, je vis de cette manière-là aussi. Je vis entre ces émotions qui sont et ces épreuves qui sont difficiles. Et aussi, je mets beaucoup d'humour dans ces épreuves-là. Donc, en soi, ça se fait naturellement. Souvent, on dit, ouais, ce qui est cool, c'est que tu ne fais pas dans le pathos. Ce qu'on appelle pathos, c'est dans de vouloir faire pleurer le public. Non, moi, j'ai vraiment envie, j'ai cette envie-là de faire rire et de m'amuser avec ces sujets assez difficiles.
Quelle est la partie du spectacle qui vous touche le plus personnellement lorsque vous la jouez ?
La plus personnellement, je dirais, ça serait le deuil, le décès de ma maman. Ça me touche et ça me parle et à chaque fois, c'est comme si je le jouais pour la première fois en tout cas.
Est-ce que justement l'humour est-il pour vous une manière de transmettre un message ou simplement de faire rire ?
Ah non, pour moi l'humour c'est très fort, ça permet de transmettre ce message. Ça permet d'essayer d'acquérir cette résilience à travers les épreuves. Et comme je dis souvent, peu importe l'épreuve. Parfois, c'est des petites épreuves aux yeux de certaines personnes, mais une écharpe dans le doigt, c'est une épreuve pour quelqu'un et il ne faut pas la sous-estimer. Donc, pour moi, c'est ça. Ça sert à ça, l'humour aussi. Ça sert à transmettre ce message-là et de dire qu'on est plus fort que ce qui nous arrive.
Comment gérez-vous les interactions spontanées avec le public en pleine improvisation ?
Ah, ça, c'est mon kiff personnel, ça. Ça, c'est mon kiff personnel qui met un PLS ma femme qui met en scène aussi le spectacle avec moi et qui me dit « Mais tu suis jamais la conduite du spectacle !» Je dis « Oui, mais moi, c'est ce moment unique que j'aime vivre avec le public. » C'est moi, en fait, avant, j'en faisais pas beaucoup et j'en ai fait beaucoup à un moment où il y a un mec qui est venu me parler et qui m'a dit « Tu sais, en 1997... » Je suis parti voir Patrick Bosso et il m'a fait monter sur scène et il m'a fait cette blague. Et je me suis dit, putain, le mec, 1997 et il s'en souvient encore. Et nous, il faut pas qu'on sous-estime, les humoristes sous-estiment ce moment unique qu'on fait vivre aux gens. Et c'est pour ça que j'en fais aussi beaucoup dans le spectacle.
Mais est-ce que, peut-être, y a-t-il un passage que vous redoutez chaque soir ?
Non, il n'y a aucun passage que je redoute. Franchement, je suis hyper content de monter sur scène à chaque fois. Et ce que je dis tout le temps, c'est je suis venu vous raconter des histoires marrantes. Pour moi, elles sont marrantes. Donc je vais venir vous les raconter et juste on va kiffer ensemble, on est une grande famille, c'est ce que je dis souvent au début du spectacle. Ce soir on est une grande famille, il y a toujours un oncle bof, donc ça sera peut-être moi, mais voilà, c'est juste on est une grande famille, je viens vous raconter, il n'y a rien qui me fait peur. Non.
Et quelle émotion espérez-vous que le public ressente en sortant du spectacle ?
Ce qu'il ressent, déjà qu'il a rigolé et qu'il comprenne qu'il a rigolé avec des sujets difficiles. Et qu'eux aussi, ils sont capables de faire ça. Moi, j'ai un ami, malheureusement, son père est tombé malade et il a vu mon spectacle deux semaines avant. Et il m'a dit, tu sais quoi, Merwan, je me suis souvenu de comment tu parlais du deuil, etc., de l'humour que tu as utilisé, et ça m'a aidé. Donc, moi, là, pour moi, j'ai gagné. C'est à ce moment-là que j'ai gagné aussi.
Qu'est-ce que la scène vous apporte que rien d'autre ne peut vous offrir ?
Ah, c'est une bonne question, ça. Ce que la scène m'apporte, elle m'apporte tellement de choses. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question, mais c'est vrai que je peux être énervé, et à partir du moment où je monte sur scène, j'ai tout oublié, quoi. Et je ressors de scène, je suis le mec le plus heureux au monde. Je reçois de la dopamine à foison. Je reçois de l'amour du public. Il n'y a rien qui est égal à ça. Même moi, je donne un peu des cours de stand-up et tout. Je dis, c'est une drogue. Et à partir du moment où on est monté la première fois sur scène, on a envie de monter tout le temps sur scène.
C'est une bonne drogue.
C'est une bonne drogue, évidemment. C'est une drogue, c'est une bonne drogue, évidemment.
Dans un instant, nous allons plonger dans votre histoire, Merwan. Et surtout la manière dont vous avez transformé chaque épreuve en énergie, en rire et en passion. Mais avant cela, je vous propose une courte pause musicale. C'est parti.
Maximum. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça que l'audit tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, c'est mon trophée. Complet à Düsseldorf, gonflé à bloc comme Usain Bolt. Je suis dans le ravio, je traverse l'époque. Je fais du shopping sur un jour off. Le jet atterrit à Lausanne. Je suis vêtu comme Lausanne. Les lunettes par quand je les vois. Et mystérieux comme Oda. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça que l'audi tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, c'est mon trophée.
Ah, t'es ma vie. Ah, Hayati. Ah, je n'ai vu que toi et un habibi.
On y va.
Allez, 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 allez. Bote et casac plein de cash. Ils sont choqués, million dollars. Ça me choque pas, je suis de full human. Ils ont un volo que j'ai flamme. Je pose des milliers à élever banane. Y'a galvé, y'a galvé. Y'a l'amour et y'a la monnaie. Y'a galvé, y'a galvé. Marhaba fi alami.
Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça que l'audi tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, c'est mon trophée.
Ah, t'es ma vie. Ah, Hayati. Ah, je n'ai vu que toi et habibi.
On y va.
Allez, 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 allez.
Elle va chambouler le rinté, chambouler le rinté, oh, chambouler le rinté.
Nous sommes de retour avec Merwan Sali.
Hey, salut tout le monde.
Si vous deviez, par exemple, vous décrire en trois mots, quels seraient-ils ?
Et déjà, je vais en prendre deux et je dirais beau gosse.
Yes.
Non, ben, je sais pas, résilient, humour et j'en utilise plus que trois, mais joie de vivre. Je pense que c'est ce qui me ressemble et ce qui...
On le ressent de suite. Hein. Ouais. Vous êtes vraiment un vrai rayon de soleil, un véritable rayon de soleil.
C'est ma tête de cookie, ça. C'est les yeux de Mini BN. Parce que quand je souris, on voit pas mes yeux, donc c'est ce qui fait ça.
Vous vous aimez ?
Je m'aime, c'est une vraie question. Est-ce que je m'aime ? Ça dépend les jours, ça dépend des fois, ça dépend pas mal de choses, mais en tout cas, j'aime ce que j'essaye de faire. Aujourd'hui, avec ma femme, on essaye de travailler sur pas mal de choses, et en tout cas, j'aime ça et ça me rend fier.
Si vous pouviez donner un petit conseil à l'enfant que vous étiez, lequel serait-ce?
Travaille mieux à l'école.
On va en parler tout à l'heure, justement.
Ben, conseil à l'enfant, crois en toi. Mais je pense que c'est ce que j'ai mis du temps à faire, mais aujourd'hui j'ai trouvé ma voie et je crois en moi.
Quel est le parfum de votre enfance?
Le parfum de mon enfance, ce qu'on appelle les feul-feul chez nous, c'est les poivrons grillés qu'on mange avec le pain. Ça, c'est l'odeur de mon enfance. Ouais.
Quel était l'environnement familial dans lequel vous avez grandi?
La famille de Malcolm, vous voyez Malcolm? Ouais, bah,
Oui,
c'est cette famille-là.
c'est vrai.
Moi, j'ai une petite soeur et un grand frère. On faisait que des bêtises, on faisait que rire, on faisait que s'amuser. Ma mère, elle en pouvait plus de nous. Vraiment, j'ai ce truc de. Ouais, j'ai beaucoup de nostalgie avec
Oui.
l'enfance où je me dis on s'amusait pour de vrai, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Mais du coup, vous dites que la famille, votre famille ressemble un peu à la série Malcolm. Mais quel mot vous vient à l'esprit pour décrire justement cette fameuse famille, votre famille?
Folle, folle,
Folle
c'est
à
un
soi.
mot, folle, une famille folle. J'ai vécu tellement de choses que, ouais, folle.
Et à qui vous ressemblez le plus physiquement et mentalement, à votre maman ou à votre papa?
Oh, j'ai un peu des deux, mais physiquement, à mon père, on est les mêmes. Donc, c'est un beau gosse aussi. J'ai beaucoup aussi le caractère de ma mère aussi, persévérant. Bah, les deux, ils sont quand même très persévérants. Ils sont. Ouais, ma mère, je lui ressemble dans quoi, ma mère? Ma mère, son humour en vérité, son humour, ouais. J'ai l'humour de ma mère aussi, assez piquant. Ouais. Qui a pas sa langue dans sa poche. Je suis un peu comme elle, ouais, sur ça. Et sur mon père, c'est l'aspect plus joyeux. Voilà, ouais.
Et quelle était la profession de vos parents?
Mon père, il a une entreprise d'Algeco. Vous voyez ce que c'est? Et ma mère, elle était mère au foyer. Voilà. Donc elle s'est occupée de nous. Depuis petit, elle s'est occupée de nous, quoi.
H24.
H24, c'est un vrai travail, hein.
Et oui,
C'est
c'est un travail.
exactement.
Et
Ouais.
oui.
C'est pour ça que je mets ça dans profession aussi, parce que c'est un vrai taf qu'elle
C'est
a
vrai.
fait.
Et quelle valeur essentielle vous a été transmise par vos parents?
Ah, le respect. Le respect de la personne qui est en face de nous, du plus grand. Le respect. C'est vraiment le respect de pas sortir. De pas en faire trop, de toujours respecter la personne en face de nous, d'aider aussi, ça aussi beaucoup, d'aider les autres et de rien attendre en retour aussi.
Et tout à l'heure, vous nous avez indiqué que l'école, bon, bah, vous n'étiez pas forcément le meilleur élève, et pourtant, vous avez toujours su captiver vos professeurs qui vous adoraient.
C'est vrai.
C'est vrai, hein?
Ouais.
Et donc, là, je suis en train de me poser la question. À l'école, qu'avez-vous appris en dehors des matières scolaires?
Ben, vu que j'ai pas appris les matières scolaires, qu'est-ce que j'ai appris à l'école? Ben, à l'école, j'ai appris aussi l'autodérision en réalité. On m'a jamais posé la question, mais si j'ai réfléchi, c'est vrai que j'ai appris l'autodérision, ben, parce qu'on se moquait beaucoup aussi à l'école du physique, etc. Et moi aussi, j'avais beaucoup de répartie sur les autres. Bon, je m'en prenais plein la gueule, hein, mais j'avais beaucoup de répartie, donc j'ai appris aussi l'autodérision. À l'école, ouais, je pense que c'est à part les matières, comme on dit, parce que voilà, mais l'autodérision, ouais. Moi, je l'ai pas appris qu'à l'école, l'autodérision, je l'ai appris aussi dans ma famille.
Mais alors, à l'école, vous étiez, on va dire, entre guillemets, un peu plus rond que les autres élèves.
Oui,
Oui.
un peu beaucoup, ouais. Ouais, j'étais très rond, ouais. J'étais rond jusqu'à quel âge? Jusqu'à 14 ans, où j'étais un peu rond. Et après, grâce au foot, j'ai maigri, ouais.
C'est grâce au foot ou comment, c'est vrai que vous avez perdu à peu près 14 kilos
Ouais.
et est-ce que justement ce parcours physique a été un moment important pour vous?
Oui, ça a été
Ça a été une réussite?
ça a été une réussite personnelle, ouais, parce que ben, je me souviens, mon coach, moi je regardais les matchs de foot bon, à l'époque ça s'appelait 15DH, c'était le meilleur niveau de cet âge-là. Et je regardais mon père, je dis, ah, papa, c'est comme des pros. Il me dit, ah, avec du travail, tu peux y arriver. Et un jour, je suis allé et le coach, il m'a dit, ah non, mais il faut que tu maigrisses parce que moi, je pourrais jamais te prendre. Parce que t'es trop gros, quoi. Et donc, du coup, bah, j'ai perdu 14 kilos, je me suis donné à fond et derrière, j'ai pu jouer. Et j'ai joué on allait jouer contre Monaco, l'OGC Nice. Donc voilà.
Mais justement, quel a été vraiment ce fameux déclic? Pour
Ce.
pour faire du foot? Qu'est-ce qui vous a vraiment donné l'envie pour être footballeur?
Ah ben ça c'est depuis le plus enfin ça on est marseillais hein, le football ça coule dans les veines quoi, depuis j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans et je me suis jamais arrêté quoi jusqu'à mes 19 ans donc enfin jusqu'à mes 18 ans en plus.
Est-ce que vous vous rappelez justement la première fois où vous avez touché un ballon?
Non mais je me souviens des premiers crampons que j'ai eu.
Ouais,
les crampons de Ronaldo, ils étaient toutes jaunes et je m'en souviens, je dormais sur mon oreiller et je mettais ma tête dessus. Je m'en souviens comme si c'était hier, ça.
Est-ce que vous les avez gardés en souvenir?
Non, malheureusement, non. À l'époque, on pensait pas à ça. Hein. On les jetait et on oubliait le souvenir.
Vous avez peut-être des photos?
Oui, j'ai des photos. Oui. Ouais, j'ai des photos. Ouais, j'ai des photos. Ouais.
Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous étiez sur un terrain?
Mais moi, j'étais quelqu'un de très stressé. Et j'avais pas confiance en moi. Et c'est ce que mon père, il me disait tout le temps, aie confiance en toi. Et moi, au foot, j'avais pas confiance en moi.
Mais comment ça se fait à ce point-là?
Mais vraiment, il y avait aucune idée.
De confiance.
Ouais, manque de confiance où je me trouvais plus nul que les autres. Alors que j'arrivais à jouer à des très très bons niveaux, mais j'avais vraiment pas confiance en moi. Et c'était vraiment des heures et des heures et des heures de discussion avec mon père dans la voiture, me dire, mais aie confiance en toi. Crois en toi, etc. Et c'était plus fort que moi, j'avais vraiment pas confiance en moi. Et du coup, ça me pénalisait sur le terrain. Bah, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on joue moins bien, quoi. Donc, ouais, j'ai ce souvenir-là quand même sur le terrain, pas confiance.
Et donc, à quel poste vous jouez sur le terrain?
Je jouais numéro 6, comme Yaya Touré. Ça, c'est pour les plus connaisseurs d'entre nous.
Et pour les personnes qui ne sont pas du tout connaisseurs?
Au milieu du terrain.
Au milieu du terrain,
on récupérait la balle, quoi.
Bon, mais du coup, finalement, vous entraînez et vous devenez vraiment performant.
Ouais, je m'entraîne, je deviens quand même assez bon.
Mais, donc là, vous devenez assez bon, mais vous étiez plutôt dans la technique, combattant, leader après?
Non, j'ai jamais eu confiance en moi. Hein.
Vraiment, à ce point-là encore?
Ouais, jusqu'au bout, jusqu'à la finalité. Au foot, ça, j'ai jamais eu confiance en moi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit j'ai trouvé ma voie en parlant du stand-up. C'est parce que là, j'ai confiance en moi et je stresse à aucun moment quand je monte sur scène. Alors qu'au foot, je stressais beaucoup et j'avais pas confiance. Donc, c'était peut-être pas ma voix.
Mais alors, est-ce que vous vous rappelez quand même les petits souvenirs, les souvenirs de vestiaire?
Oui, c'est la camaraderie, quoi. C'est pas le rugby, le foot, mais c'est quand même la camaraderie. C'est aussi beaucoup de, comment je dirais, d'enjeux et de compétition aussi. De compétition même dans la même équipe parce qu'il faut gagner sa place, il faut arriver à un certain niveau aussi, il y a ce truc là carré quoi, mais ouais je me souviens c'est que des bons moments le foot, c'est que du plaisir quoi.
Et surtout votre talent sur le terrain avait attiré l'attention et vous étiez si prometteur que vous étiez sur le point de partir en sport études en Écosse à Édimbourg pour aller encore plus loin dans le football. Un jour vous faites un jogging et soudain, vous êtes complètement essoufflé et vous rentrez chez vous. Et là, votre maman vous conseille justement d'aller faire une prise de sang au laboratoire et c'est le début d'une nouvelle page de votre histoire.
Exactement, ouais. C'est, je devais, une semaine avant la prise de sang, je devais aller à Clairefontaine. On devait jouer avec mon équipe de sport-études contre une autre académie. Et là donc je me suis dit bon il faut que je reprenne un peu parce que j'étais tout le temps fatigué en fait, ça faisait quelques mois que j'étais fatigué et j'ai dit il faut que je reprenne le sport, du coup j'ai couru 50 mètres et là essoufflé au bout de 50 mètres c'était pas normal quoi, donc du coup je dis ça à ma mère et ma mère elle dit bon il faut aller faire une prise de sang, on est parti faire la prise de sang et ils ont ouvert, c'était un samedi comme ils ont ouvert
vous faites rire, vous savez pas ce qui se passe parce que évidemment vous écoutez seulement, vous ne voyez pas Merwan Salih en studio, mais je peux vous dire il est très rigolo.
C'est dur de suivre un programme avec moi, je vous l'accorde. Vous parlerez de ça avec ma femme parce qu'elle me dit tout le temps la même chose, mais oui, donc du coup ils ont ouvert le laboratoire que pour ma mère pour lui dire qu'il faut que j'aille en urgence à la Timone et que la prise de sang était catastrophique quoi. Et voilà, c'est là où après aux urgences de la Timone j'ai découvert que j'avais une leucémie.
Alors justement que vous étiez un espoir du football, on rappelle, hein. Donc là, le destin frappe brutalement, votre corps se rebelle, votre rêve sportif s'éloigne, vous découvrez alors que vous êtes atteint de leucémie, ce que vous avez dit il y a un instant, le stade se transforme en chambre d'hôpital, le ballon en perfusion et vos coéquipiers en infirmiers. Quel est justement le premier mot qui vous est venu à l'esprit à l'annonce de ce médecin qui est venu vous voir? Et j'ai cru comprendre que, et en plus, il a touché votre jambe, et ça, c'était vraiment pas bon. Vous pouvez expliquer, justement?
Ça, c'est un petit tip pour tous les gens qui rentrent à l'hôpital. Si le médecin s'assoit au bord de votre lit et commence à vous caresser la jambe, ça sent pas bon pour vous. Non, mais c'est vrai, oui, il s'est assis au bord de ma jambe et il m'a commencé à me caresser la jambe. Et elle m'a dit, voilà, Merwan, t'as une leucémie aiguë lymphoblastique. J'ai commencé à pleurer. Bah, après, je me suis dit, je sais pas ce que c'est une leucémie. Je pleure parce que tout le monde pleure, quoi. Mais sinon, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et après, on m'a expliqué que c'était un cancer du sein, que c'était grave. Et voilà, quoi. Et oui, ma vie, elle s'est arrêtée. Si je devais choisir un mot sur ce moment. En réalité, c'est pas la première interview que je fais. Et souvent, on pose la question. Mais j'ai du mal à me souvenir des mauvais moments. Il y a eu des moments difficiles, mais. J'ai vraiment du mal à me souvenir des mauvais moments ou des downs que j'avais parce que en réalité on est heureusement en France, et ça je remercie aussi les hôpitaux publics, etc. On est très bien entouré à l'hôpital, donc j'ai vécu aussi de très 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 bons moments. Mais oui, ma vie elle s'est arrêtée à ce moment-là. En fait, en tout cas, c'était le début d'une nouvelle aventure, quoi.
Mais est-ce que cette épreuve a changé peut-être votre regard sur la vie?
Oui, je l'ai jamais fait sur scène, ça, mais j'ai une blague à chaque fois que je me dis putain, faudrait que je la mette dans le spectacle. C'est le cancer, ça a changé ma vision parce que maintenant j'ai la cataracte à cause du cancer. Donc oui, ça a changé la vision de la vie. Je la vois beaucoup plus floue. Pardon. Mais évidemment que ça a changé ma vision. Je vois plus la. Si je fais du stand-up aujourd'hui, c'est grâce à ça, quoi.
Est-ce que vous avez appris à vous connaître différemment pendant cette période?
Oui, parce que en vrai, quand on a une épreuve comme ça, on ne sait pas si on est capable de la surmonter. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, t'es capable de surmonter des grosses choses, et t'es capable de garder le sourire et de rire malgré toute cette épreuve-là. Et ça, c'est vraiment ce qui ressortait de moi à l'hôpital aussi, avec les médecins. Les médecins et les infirmières, elles aimaient trop venir dans ma chambre, parce que dans ma chambre, on rigolait toujours.
Mais justement, comment on trouve cette force d'avancer, même dans ces moments, dans les moments les plus difficiles, hein?
Honnêtement, après, c'est sûr, moi, je suis religieux aussi, je suis musulman.
C'est important pour vous.
Voilà, donc c'est hyper important pour moi. Et donc du coup, ça m'aide à traverser ces épreuves-là, parce que y a quelque chose après. Et ce qu'on dit souvent quand on est éprouvé dans la religion, et c'est que on nous aime aussi. C'est pour Donc je m'attachais aussi à ça, et aussi après c'est quelque chose qui est en moi. C'est quelque chose de naturel depuis jeune. Je suis comme ça et je rigole de tout, et je rigole, et de toute façon on avance. Et souvent ce que je dis, t'as le choix entre rire et pleurer. Franchement, je préfère rire. De toute façon, j'ai pas autre choix que ça, quoi. Donc let's go, en avance, quoi.
Et quand on vous écoute, on a l'impression quand même, votre chambre d'hôpital, c'était un peu la fête, tout le monde voulait venir.
Mais petite anecdote, il y avait tous les joueurs de l'OM qui venaient dans la chambre d'hôpital, sauf que moi, j'étais en aplasie, quoi, ce qu'on appelle un peu en aplasie, ça veut dire les défenses immunitaires très basses. Et donc du coup, tout le monde, c'était maximum 2 personnes dans la chambre, tout le monde le masque, etc. On s'est retrouvé à 11 personnes avec, je me souviens, Marcelo Bielsa, Gignac, personne à le masque, on faisait des jongles dans la salle, dans la chambre, et personne, et avec tous les médecins, et on rigolait, on s'amusait, même les médecins disaient, oh purée, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais il y avait mon père, il y avait tout le monde, enfin voilà, quoi.
Mais c'est incroyable,
ouais, c'est... Et j'ai gardé des bons contacts aussi, en plus, avec ce médecin qui me suivait à l'hôpital. Donc non, franchement, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Hein.
Et votre petite sœur, elle a joué aussi un rôle essentiel dans votre guérison?
C'est le rôle principal, j'ai envie de dire.
Et oui, c'est ça.
Oui, parce que moi, j'ai fait une greffe de moelle osseuse. Donc voilà, on a pris la moelle de ma petite sœur et on me l'a injectée. Donc, Donc voilà, contre son gré, évidemment. Non, je rigole. Mais c'est vrai.
Elle hésitait un peu.
Elle hésitait quand même. On lui a donné un livre, on lui a dit ça. Bon, après, ma mère, elle lui a dit tu vas et tu te tais. Hein, parce que au bout d'un moment, hein, il va pas mourir par ta faute quand même. Mais oui. Mais elle hésitait, je sais pas. Est-ce qu'elle comprenait vraiment ce qui se passait?
Oui, elle était toute jeune, 8-9 ans. Jeune.
Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, elle comprenait pas forcément ce qui lui arrivait. Mais ça, c'est important de le dire. On peut donner sa moelle, on peut le donner. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en bonne santé. Souvent, c'est femmes de moins de 35 ans. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est souvent ce qui est demandé. Donc, on peut donner sa moelle. Et ça, c'est important aussi de le dire. Je profite de ce moment-là pour le dire que c'est quelque chose qu'on peut faire. Quoi.
Bien sûr. Alors, ce n'était pas seulement non plus que la fête dans votre chambre d'hôtel. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même...
D'hôtel, je sais pas.
D'hôtel, excusez-moi, d'hôpital. Non, mais...
Tellement, on pense que c'est une chambre d'hôtel.
Non, mais c'est ça, excusez-moi. Oui. Vous avez mis quand même 2 secondes à me rattraper. Vous avez bien réfléchi.
On parle de la même chose.
C'est ça. Non, mais d'hôpital. En plus, j'imagine, en même temps, quand vous nous racontez, on voit les images dans notre tête. Vraiment.
C'est vrai, attends,
mais... Oui, vous le racontez très, très, très bien, votre histoire. Et bon, il n'y a pas ce genre de moment convivial. Il faut aussi étudier.
Ah ben oui, il faut étudier, évidemment.
Et voilà.
Il y a les docteurs de l'hôpital et les vrais les docteurs, moi. Putain, même moi, je dis n'importe quoi. Là, là, là. Il y a les professeurs de l'hôpital, il y a les professeurs, et il y a les profs de français, les profs de maths qui viennent à l'hôpital aussi et qui viennent nous donner des cours. Moi, il faut savoir que j'ai passé mon bac à l'hôpital.
Mais oui.
Donc, voilà.
Il y a une petite anecdote là-dessus. Parce que, est-ce que vous avez réellement passé votre bac à l'hôpital?
Ah oui, j'ai réellement passé mon bac à l'hôpital. Pas tout le bac, mais il y a certaines épreuves du bac que j'ai passées. Parce qu'il y en a d'autres que j'avais déjà passées avant.
Ouais.
Donc, j'ai passé l'épreuve de français à l'hôpital.
Il n'y a pas d'autre personne qui a fait une épreuve à votre place?
Ah, ben oui, c'est ça. Oui, c'est celle qui vient de me surveiller. La prof, elle a fait toute l'épreuve à ma place parce que moi, j'étais sous chimiothérapie à ce moment-là. Donc, elle avait un peu de peine, sans cheveux, sans sourcils. Elle s'est dit, bon, je vais quand même un peu aider le gosse. Donc, du coup, elle m'a aidé. Bon, moi, il faut savoir que j'avais 17-18 ans. Donc, j'étais pas un gosse, je faisais 1m90. Donc, ça va. Mais, donc, du coup, elle m'a aidé. Elle a fait toute l'épreuve à ma place. Et ce que je savais pas, c'est qu'elle était prof d'art plastique et que j'ai eu 6 sur 20. Donc, donc, merci madame, mais la prochaine fois, abstenez-vous. Voilà.
Vous l'avez plus jamais revue?
Plus jamais. J'aimerais trop qu'elle me reconnaisse un jour et qu'elle m'envoie un message.
Ce serait drôle.
Et qu'elle s'excuse surtout. J'attends des excuses en réalité. Hein.
Mais c'est marrant parce que vous dites, ouais, j'étais vraiment un mauvais élève et finalement, là, vous passez quand même, vous allez quand même jusqu'au bac.
Ah, bah parce que j'avais pas le choix. Ma mère, mère des années 90, hein, elle m'a dit, tu t'es, tu obéis, tu vas passer ton bac. Hein. J'avais pas le choix. Elle m'a dit, encore heureux que tu passes ton bac. En tout cas, elle me poussait parce que on sait très bien que les études, pour nos parents, c'est hyper important. Donc, même dans ces moments-là, ça reste encore hyper important parce que en réalité, aujourd'hui, si j'y réfléchis, c'est parce qu'elle ne perdait pas espoir. Elle savait que la vie, elle allait continuer pour moi.
Bien
donc,
sûr.
C'est important d'avoir le bac. Quoi.
Et après de longs mois de traitement éprouvant, vous entrez enfin en rémission. Après cette longue bataille, quel a été le premier petit bonheur que vous êtes permis de savourer?
Un filet aux fiches de chez Quick.
Ah oui.
Ah ouais. Mais parce qu'il faut savoir que quand tu es à l'hôpital, tu as une leucémie, quand on te soigne, tu peux pas manger de l'extérieur, même celui de ta maman. Et que j'étais sans sel, j'avais vraiment des grosses restrictions. Et je me souviens encore du premier jour où je rentre à l'hôpital, mon oncle qui m'achète un quick, et je le mange pas. Ben, parce que voilà, mauvaise nouvelle, etc. T'as pas trop le moral, donc du coup, tu manges pas, t'as pas faim. Et ben, le soir, je faisais des rêves de quick. Je faisais des rêves de salade, je faisais des rêves de steak qui cuisait sur la plaque. Est-ce qu'on imagine? Moi, je rêvais de ça. Donc, en vérité, quand on se prive de quelque chose, au bout d'un moment, on devient fou. Donc, la première chose, je suis allé manger quick, je mangeais des steaks. je faisais n'importe quoi. Ouais.
Vous vous êtes régalé.
Ouais, je me suis régalé, ouais.
Et justement, est-ce que... moi, je pense, hein, parce que par rapport à vos mots, par rapport à vos dires, vous regardez vraiment le personnel soignant différemment aujourd'hui, complètement?
Ah ben oui, le personnel soignant, c'est grâce à eux aussi que j'ai passé des bons moments. Ils gardaient toujours le sourire, ils prenaient soin de moi. En plus, j'avais des jeunes, quoi. Enfin, des jeunes. À l'époque, ils avaient 25 ans, 26 ans. Je me souviens des infirmières souvent qui venaient ou des infirmiers. C'était Non, non, franchement, je ne le remercierai jamais assez. Juste hier, en plus, je reçois un message d'une infirmière qui était dans ma chambre stérilisée, qui m'a dit « Ah, mais je t'ai reconnu, est-ce que ça ne serait pas toi qui étais à la Timone, etc. » Je dis « Oui, c'est moi. » Elle me dit « Ah, ben, j'étais la infirmière et je me suis souvenu d'elle. » Et franchement, c'est trop beau. C'est grâce à ce métier.
Et est-ce que vous avez gardé des liens avec les autres patients? Est-ce que vous avez fait des rencontres?
Oui, j'ai gardé des liens grâce à une association qui s'appelle Sourire à la vie. J'ai gardé des liens avec, par exemple, Théo, avec, voilà, avec pas mal de jeunes qui étaient aussi hospitalisés avec moi. Et voilà, aujourd'hui, c'est magnifique. Hein. Ils ont des enfants, ils sont mariés, ils font leur vie, ils voyagent. C'est magnifique.
Et si la maladie était une personne face à vous aujourd'hui, que lui diriez-vous?
J'ai gagné.
C'est vrai.
J'ai gagné, voilà. Et... tu peux repartir là où tu étais. Pas dans moi, mais...
Et quel est le plus beau cadeau caché, entre guillemets, que cette épreuve vous a offert?
Le recul. C'est aujourd'hui, je prends tellement de recul sur ce qui m'arrive à chaque fois, dans n'importe quoi, que ça soit dans la joie comme dans les épreuves, hein, parce que les épreuves de la vie, elles s'arrêtent pas parce qu'on a eu un cancer un jour dans notre vie, hein, elles continuent. Et c'est aussi ça le message de toute ma vie, quoi, c'est continuer et donc le recul sur tout ce que j'ai, quoi.
Est-ce que vous sentez, est-ce que vous investissez dans des missions auprès des jeunes qui souffrent aujourd'hui?
Ben, avec ma femme, on a créé une association qui s'appelle UP, donc Humour d'utilité publique. Et avec cette association, pardon, on donne des cours de stand-up aux enfants malades. Il n'y a pas si longtemps, on a fait 3 mois de cours et on les a fait monter sur scène devant 140 personnes au VIGS, le lieu sur le vieux port de Gad Elmaleh. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils nous ont offert la salle. Et donc, du coup, on les a fait monter devant 140 personnes. C'est la première fois qu'ils montaient sur scène. Ils racontaient des blagues, ben, parfois sur leur maladie, parfois pas, sur ce qu'ils voulaient. Et ça, pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai faite aujourd'hui grâce à ce métier. Et voilà, donc, ouais, j'essaye un peu de rendre ce qu'on m'a donné. Et ça prouve à quel point je pense que l'humour, elle est réellement d'utilité publique. Et l'humour, ça aide aussi à surmonter les épreuves. Et moi, je reçois des messages de parents derrière qui sont en pleurs et qui me disent « Merci, mon enfant a été dépressif avant de vous connaître. » Donc moi, franchement, c'est la plus belle chose que j'ai faite aujourd'hui, en tout cas dans le stand-up avec ma femme. C'est la plus belle chose qu'on ait créée, en tout cas.
Alors, donc là, vous sortez de l'hôpital, vous reprenez le cours de votre vie, vous retrouvez un bon rythme. Et c'est à ce moment-là que vous décidez de vous lancer dans un BTS en pétrochimie. Pourquoi Exactement. Cette voie?
Pourquoi cette voie BTS pétrochimie? Alors là, c'est quand même complètement bête. Moi, je sors du cancer et je vais à l'usine qui m'a peut-être donné le cancer. Ben voilà, super logique. Mais c'est vrai que c'est complètement bête. Ben non, pourquoi cette voie? Parce qu'en fait, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix ou c'était le seul BTS qui m'avait pris. Donc, je suis allé. Je me souviens, j'étais sur un catamaran en Corse, grâce à une asso d'enfants malades. Et donc, du coup, on était sur le catamaran en Corse. J'appelle mon frère, je dis « Yanis, il y a un BTS qui m'a pris, j'y vais ou j'y vais pas ?» Il m'a dit « Ben, dis oui et après tu verras. » Du coup, je suis allé et voilà comment ça s'est passé, comment je suis rentré dans ce BTS.
Et que s'est-il passé justement juste avant cet examen?
Ben là, on est en train de raconter tout le spectacle, hein. On raconte un peu tout le spectacle, mais bon, ça vous met l'eau à la bouche, hein. Non, ben qu'est-ce qui s'est passé à l'examen? Ben, faudra venir au spectacle, voilà, pour le savoir.
Oui, il y a eu un événement bouleversant.
Oui, oui. Non, oui, j'ai perdu ma mère, moi, juste avant cet examen. Et quand je dis perdre, hein, elle s'est pas perdue, hein, elle est morte, quoi. Du coup, voilà, ben, j'ai fait tout de suite, ça, on va en venir à ça, mais tout de suite, quand j'ai vécu cette épreuve, ben, je me suis dit, écoute, on va la vivre comme toutes les autres aussi, comme la maladie, comme tout, et on va essayer d'en rire et en faire des blagues, quoi.
Alors, vous avez décidé de passer ce BTS, peut-être c'est pour une forme, on va dire une façon de lui rendre hommage.
Exactement, je sais pas si, ouais, c'est, j'entendais sa voix qui me disait « Tu t'es, tu obéis, tu vas passer ce BTS, Merwan !» Donc, j'ai passé ce, ouais, c'est, oui, parce qu'elle voulait que je l'aie, quoi. Elle voulait, c'était son rêve, ses enfants qui fassent des études, c'était son rêve. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai eu le BTS. Donc, c'est bon.
Félicitations, effectivement. Merci. Eh oui.
J'ai eu le BTS, donc parfait.
Et imaginons que votre maman est avec nous au studio, que lui diriez-vous ?
Déjà que j'ai eu le BTS, que je suis marié, voilà. Qu'est-ce que je lui dirais ? Qu'elle aurait pu prévenir. Non, je rigole. Mais... T'aurais pu envoyer un texto, ouais. Non, mais oui, écoutez, qu'est-ce que je sais pas trop quoi lui dire. Ouais, j'ai jamais pas trop pensé à ce truc, mais ouais, que j'ai eu le BTS et que je grandis et voilà. J'espère qu'elle est fière de moi, de tout ce que je fais, parce qu'elle m'a jamais vu faire des blagues sur scène, donc. J'espère qu'elle est fière de ça et que je suis désolé de faire des blagues sur elle sur scène aussi. Je pense pas, je sais pas si elle kifferait quoi.
Je suis sûr qu'elle doit avoir quelque part.
Oui, oui.
Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre premier job ?
Premier job, moi j'étais, je travaillais en bureau d'études en pétrochimie. Je travaillais 10 mois et j'ai arrêté parce que j'arrivais pas quoi. Le bureau, c'était pas mon truc. Je le sentais que c'était pas mon truc quoi. Je faisais des palpitations, je tombais dans les pommes. Au bout d'un moment, j'ai dit non, mais il faut que j'arrête. C'est trop de stress pour moi, trop de... C'était pas moi, quoi. Et je le sentais que c'était pas moi qu'il fallait que j'arrête. Donc, j'ai dit let's go, j'arrête. Et je me suis mis derrière ça, auto-entrepreneur. Et j'ai fait des petits tafs à côté, quoi.
Est-ce que aussi, vous avez peut-être senti que votre énergie, votre créativité avait besoin d'un autre terrain d'expression ?
Exactement, peut-être, hein, peut-être. Oui. En réalité, oui, moi je me souviens, mon chef, un jour, il m'a convoqué dans son bureau et il m'avait dit, tu sais, Merwan, tu souris trop. Waouh. Et là, je pense que ça a été aussi un élément déclencheur de me dire, oui. J'ai rien à faire ici, en fait. Ouais. Parce que je souris, parce que je rigole un peu trop, c'est problématique, quoi. Non. Je suis parti, quoi.
Et c'est incroyable que de sourire, ça peut déranger certaines personnes.
Tout mon parcours, ça a été un peu ça. Hein. Quand on sourit trop, on nous prend pour quelqu'un de bête souvent ou quelqu'un de pas sérieux. Et ça, vraiment, c'est quelque chose. J'aimerais bien aborder ça un jour dans un spectacle, mais c'est quand même fou. Moi, j'ai jamais compris ce truc. De parce que tu souris ou parce que tu rigoles, t'es bête ou t'es pas sérieux. On estime plus quelqu'un qui est un peu. On dit qu'il est charismatique parce qu'il sourit pas et il est non. Enfin, je comprends pas trop en fait ce truc quoi. Bon, là, vous faites partie. Là, vous êtes dans ma tête. Là vous êtes clairement dans ma tête.
On adore. Comment vous avez découvert justement la scène et le théâtre ?
J'ai commencé le théâtre spécialisé dans l'humour, ce qu'on appelle théâtre spécialisé dans l'humour, à la Fontaine d'Argent. Et donc, du coup, j'ai fait un an et on apprenait des sketchs d'autres personnes. Donc, du coup, on n'écrivait pas nous-mêmes, on apprenait des sketchs d'autres personnes. Exemple, Raymond DeVos.
Vous faites quelque chose ou vous avez oublié le texte ?
J'ai tout oublié, sauf un truc que Raymond DeVos, c'était un sketch sur Jésus. Il disait « Jésus revient, Jésus, c'est un comble !» Voilà, il disait ça. Mais c'était Raymond DeVos, un monstre. Un monstre, comme on dirait à Marseille. Mais voilà, donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai un collègue, d'ailleurs, que je continue à avoir, qui faisait du stand-up et qui prenait des cours.
Oh, oui. Je l'ai eu au téléphone, justement. Ouais. Donc là, est-ce qu'à cette époque, vous connaissez peut-être une certaine personne, ouais. On va citer son nom tout à l'heure, mais c'est votre oncle, non, qui a rencontré, ouais. Peut-être ce fameux collègue, non ?
Exactement, oui. Ouais.
Le comédien Moustazou ?
Exactement, oui. Ouais. Qui flyait sur le Vieux-Port, et il me disait, et mon oncle, il était sur le Vieux-Port, il a dit, ouais, mon neveu, il aimerait bien faire du stand-up. Il dit, donne-lui mon numéro, il m'appelle, et voilà, c'est passé comme ça, et du coup, j'ai écrit des blagues chez moi. Et je m'en souviens, la programmatrice du Comedy Club Vieux-Port, elle m'a dit, mais est-ce que tu peux m'envoyer une vidéo? Sauf que moi, j'avais jamais fait de stand-up. Du coup, j'ai pris un micro en bois chez moi, devant des peluches. J'ai la vidéo encore, devant des peluches.
Donc les peluches, c'est le public.
C'est le public, exactement. Et je faisais des blagues catastrophiques. Et elle m'a dit, viens. Donc c'est fou quand même. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai fait ma première scène.
Bah alors, vous venez, mais du coup, quel est votre tout premier sketch là-bas?
Je parlais déjà du cancer. Je parlais déjà du cancer, c'était quelque chose d'important pour moi. Donc j'en parlais déjà et je faisais, c'était pas du tout la même chose, c'était pas du tout la même qualité, le même rythme, les mêmes blagues. Quoi qu'il y a 2-3 blagues, je pense que j'ai dû garder. Mais voilà, mais c'était mon premier sketch quoi. C'est aujourd'hui quand je le vois, j'en rigole encore avec les collègues quoi.
Mais si vous deviez par exemple faire un spectacle sans humour, de quoi parlerait-il ?
Un spectacle sans humour ?
Ça, c'est dur. Hein.
Ouais, parce que j'ai même fait une conférence, un TEDx, Marseille, et j'ai mis de l'humour dedans. Parce qu'en fait, je sais pas faire les choses sans humour, moi. Je sais pas ne pas faire rire. C'est ma qualité. C'est comme je demande à un joueur de foot de jouer sans ballon, quoi. Ça marche pas. Ouais, ouais. Non, moi, je fais de l'humour. Mais spectacle sans humour, non, je vois pas l'intérêt.
Non. Allez, revenons sur un petit moment fort de votre parcours. Vous avez participé à Un incroyable talent. Mm. Qu'est-ce qui vous a motivé à tenter l'aventure?
Qu'est-ce qui m'a motivé? Moi, j'avais pas envie à la base. En fait, c'est même pas que j'avais pas envie, c'est que j'ai reçu un message sur Instagram du mec. Il avait pas de profil, rien du tout. Je me suis dit c'est une blague. Et ma femme m'a dit non, mais vas-y, réponds au cas où. Et après, il m'a envoyé ça. J'ai dit bon, est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que c'est vraiment un incroyable talent? Du coup, je me posais beaucoup de questions. Et comme tout dans ma vie, je dis, bah, c'est une aventure, let's go, on y va. Et on voit ce que ça donne, quoi. Souvent, c'est ça. Et ça, vraiment, c'est mon père qui me l'a inculqué. Vas-y, et après, on voit ce que ça donne. De toute façon,
sans pression. Quoi.
Sans pression. Je me souviens d'une phrase de mon père qui me dit, mais de toute façon, tu risques quoi? T'es qui? Je dis, bah, personne. Il me dit, bah, voilà.
Mais comment avez-vous préparé votre numéro et surtout, quels souvenirs gardez-vous de cette expérience sur scène et en coulisses?
Oui, sur scène et en coulisses, c'était ouf. C'était très, très stressant. C'est ce que je dis souvent. Je dis après Incroyable Talent, je stresse plus. Enfin, je stresse plus quand je monte sur scène. Il n'y a rien. Enfin, Incroyable Talent, il faut savoir qu'il y a un jury en face de nous et qu'ils peuvent nous buzzer. Il faut savoir que 5 minutes avant moi, il y a une meuf qui se pend sur les cheveux sur 20 mètres. Elle vient de Yougoslavie. Il y a tout un truc où il y a la pluie qui tombe, elle qui danse avec ses cheveux accrochés sur 20 mètres. Et après, on dit, et on va accueillir Merwan qui va nous faire des blagues. Wow, wow. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire une étape avant ou...
Mais là, ça met une pression énorme.
Ah oui, une pression énorme. Toi, tu arrives avec tes blagues alors que l'autre, elle fait des trucs de malade. Vraiment, on voit que c'est un incroyable. Et donc, en vrai, après, je comprends ce que c'est l'incroyable talent. C'est de rire de quelque chose qui n'est pas forcément drôle et d'essayer d'utiliser l'humour pour surmonter les épreuves, etc. C'est vrai que c'est un incroyable talent quand on y pense. Mais moi, j'avais peur que les gens ne voient pas ça, quoi. Donc, mais ça s'est hyper bien passé. La première, c'est les auditions, c'est hyper bien passé. J'ai une standing ovation, le jury aussi. Donc ça, non, je suis très, très content. En coulisses aussi, c'était très, très marrant.
Mais comment ça se passe en coulisses?
En coulisses, comment ça se passe? Ben, on ne s'arrête pas, hein. C'est long. Parce qu'on doit prendre plein de scènes, on doit prendre plein de moments, etc. De vie dans les coulisses, etc. Donc c'est très énergivore. Quand on monte sur scène, on est vraiment fatigué en fait. On vient de passer toute une journée devant les caméras, etc. Mais super, 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 des super rencontres, que ça soit avec des autres artistes ou voilà, il y avait des Marseillais. En fait, je connaissais tout le monde pratiquement. Il y avait des Marseillaises qui dansaient, qui sont arrivées en finale d'ailleurs. Inverdance, elle s'appelait. Elle s'appelle toujours. Mais donc du coup, elle est au collège avec moi. Il y avait Briac, un autre humoriste marseillais, qui était avec moi aussi. On était à Marseille, quoi. En vérité, on était à Marseille, ça m'a pas trop chamboulé, quoi.
Est-ce que cette médiatisation vous a donné peut-être un petit coup de pouce professionnel?
Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Si je dois être totalement honnête avec les gens qui nous écoutent, pas forcément, en réalité. Je pense que aussi, c'est, pour le public, c'est peut-être... C'est peut-être certifiant, on a fait Incroyable Talent, ils ont un peu plus confiance en nous, ils viennent un peu plus nous voir. Mais voilà, ça m'a apporté ce petit truc-là. Après, ça m'a apporté sinon beaucoup plus d'expérience personnelle que, voilà, professionnellement, ça m'a pas trop non plus apporté, quoi.
Alors, moi, franchement, je me régale parce que je vous ai vu sur les réseaux sociaux. Là, vous partagez des vidéos pleines d'humour avec votre femme.
Exact.
J'adore. Ouais. Hein. Allez, un petit joli mot pour votre femme.
Je t'aime.
C'est beau. Non,
oui. Ma femme, la bobo. Non, mais oui, c'est. On fait plein de vidéos avec ma femme, mais parce qu'elle a un rire très communicatif.
Ah, mais oui.
C'est
carrément.
Mon meilleur public. C'est donc du coup, c'est ça. C'est le meilleur public. Et nous, au début, on faisait des vidéos, on n'a même pas capté qu'il y avait son rire derrière, parce que nous, on a l'habitude, et c'est les gens dans les commentaires qui disaient « Ah, son rire t'in. !» Et nous, après, on a dit « Putain, en fait, ouais, les gens, ils sont comme nous. Et on a cette connexion-là, on va continuer à faire ça, et on aime trop faire des vidéos ensemble. Vraiment, on prend que du plaisir à faire ça. »
Donc, on rappelle que votre femme vous met en scène.
Exactement, c'est ma manageuse, elle me met en scène, on travaille ensemble, on a ouvert l'asso Up Humour d'utilité publique ensemble aussi. Elle a tout arrêté pour qu'on puisse travailler ensemble et faire évoluer ma carrière. Donc,
Elle était dans quel domaine avant ?
Ma femme, elle a travaillé chez les Nations Unies juste avant. Elle a vécu au Sénégal, au Congo. Elle a travaillé un peu partout. Et après, elle travaillait à l'Ordre des Architectes quand elle est revenue sur Marseille, où elle s'occupait de l'Ordre des Architectes. Et après, elle a tout arrêté et on s'est mis ensemble pour cette aventure, quoi.
Et comment vous vous êtes rencontrés ?
On s'est rencontrés en comedy club. Ma femme, elle était dans le public et elle m'a envoyé un message. Bon, elle dit que c'était pas du tout pour me draguer, mais j'y crois pas une seconde. Alors là, j'y crois pas du tout. Parce que quand tu demandes à quelqu'un d'aller manger une crêpe au Nutella, c'est pour le draguer. Même si on a du Nutella partout, c'est vraiment le pire des trucs, aller manger une crêpe Nutella pour un date. Voilà, sachez-le. Et, donc du coup, elle m'a envoyé un message. Moi, j'ai pas répondu parce que je faisais mon désiré. Et donc, du coup, après, on s'est rencontrés, elle est revenue. Et voilà, ça a été le coup de cœur. Et on s'est mariés, je crois, religieusement 6 mois après. On est partis derrière un tour du monde avec ma femme. Et voilà, quoi. Et depuis, c'est dur le mariage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, je rigole.
Mais non.
Non, ouais, depuis, c'est le kiff, quoi.
Vous pensez aux enfants ?
Bien sûr, on y pense aux enfants. Ce que je raconte sur scène aussi, je dis, mais avec la maladie, etc., j'ai dû congeler mes enfants, dans les règles de l'art, évidemment, hein, tout est légal. Mais donc, du coup, mais bien sûr, on y pense, bien sûr, des petits nous, ça serait cool, ça.
Oh, que c'est beau.
Ouais. Plus des petits moi que des petits elle, mais non, je rigole. Je perds le public féminin. Oh merde. Non, je plaisante évidemment.
Vous allez animer une masterclass à Nice les 6 et 7 juin.
Ouais.
Au Bobard Comedy Club et au Port de Nice, c'est bien cela ?
Exactement. Au Port de Nice, c'est parce qu'on donne les cours là-bas, c'est les bureaux. Et après, au Bobard Comedy Club, c'est là où les gens vont monter sur scène. Nous, on a fait plein à Marseille des masterclass, donc on a plein d'avis. Si vous avez peur de pas kiffer, en tout cas nous, en vrai, on vend ça un peu comme une bucket list. C'est-à-dire que toute ta vie, t'as voulu faire du saut à parachute sur ta bucket list, tu le coches, tu l'as fait. Et souvent, les gens, ils ont envie de monter sur scène pour la première fois. Et nous, on leur donne cette chance aussi de prendre des cours pendant 2 jours d'affilée et monter sur scène à la fin. Et franchement, on a que des bons retours. La dernière fois, on avait 10 personnes. Sur 10, il y a 8 personnes qui ont continué le stand-up et qui ont pris des cours. Donc en vrai, c'est
vraiment une belle occasion.
Ouais, quoi. Exactement. C'est magnifique. Moi, ce métier, je le kiffe, quoi. Vraiment.
Quelle est la question que personne ne vous pose jamais, mais que vous aimeriez pourtant partager ?
C'est une bonne question, ça. Hein. Ah ouais, je tenais à dire à tous les auditeurs, j'ai pas eu les questions avant. Donc c'est que de l'impro. Donc une question, tu peux répéter la question ou pas ?
Tu te rappelles plus ?
Non, je me rappelle plus, c'est pour réfléchir et qu'il n'y ait pas de blanc, quoi.
Quelle est la question que personne ne vous pose jamais, mais que vous aimeriez pourtant partager avec tout le monde ?
Partager la difficulté. De ce métier. Je trouve qu'on n'en parle pas assez.
Seulement les paillettes, en
exactement.
Fait.
Exactement. Hein. Et vraiment, en parler, c'est important. La difficulté des réseaux sociaux aussi, parce que c'est hyper important dans notre métier.
Ça joue beaucoup, les réseaux sociaux ?
Oui, il n'y a que ça qui joue, en réalité. Et aujourd'hui, on est devenu esclaves des réseaux sociaux, même nous, humoristes, on est obligés de faire des vidéos, on est obligés de créer une communauté.
Mais c'est un travail, parce que ça prend du temps, tout ça.
Mais c'est deux travails en un, en fait. Ouais. C'est ça, la problématique, c'est qu'on doit monter sur scène, faire rire les gens, et faire un autre travail à côté, qui est les réseaux sociaux, faire des vidéos, connecter avec les gens, créer des vidéos marrantes pour les gens, mettre un peu de nous sur les réseaux sociaux, c'est très différent sur scène. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ça. Et vraiment, parler de ça, je trouve ça hyper important. Moi, parce que moi, sur scène, je suis quelqu'un de très solaire, quelqu'un où on a envie d'être mon ami dès que je monte sur scène, etc. Parce que je suis comme ça naturellement, mais sur les réseaux sociaux, on ne le voit pas naturellement. Parce que y a une caméra, il y a quelque chose. Donc, c'est différent de montrer ce côté-là de moi sur les réseaux sociaux. On a mis beaucoup de temps.
Alors, honnêtement, quand on vous regarde sur les réseaux sociaux, on a envie d'être votre ami et qu'on a l'impression que vous êtes aussi également notre ami. Hein.
Tant mieux,
le ressent vraiment.
Tant mieux, parce que c'est vraiment quelque chose où j'ai pas envie d'être fake. Et j'ai envie qu'on ressente que c'est moi, Merwan Sali, et qu'on kiffe ensemble et qu'on rigole. Et quand vous m'envoyez des messages, par exemple, les gens m'envoient des messages et des trucs personnels parfois. Et je réponds tout le temps et ça me touche. Et ouais, j'ai envie qu'on soit une grande famille, juste qu'on kiffe. Et moi, vraiment, c'est ça le plus important. Je sais que c'est bateau à dire, mais j'ai envie qu'on kiffe parce qu'en vrai, ben, ça m'a pris le cancer et tout ça. C'est que la vie, elle est courte et elle peut changer à tout moment. À une seconde près, ça change. Donc, on kiffe les moments où on est en bonne santé et on est encore là, quoi.
Quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui ?
Ma plus grande fierté, ben, c'est déjà d'être marié avec ma femme et qu'on crée tout ce qu'on est en train de créer aujourd'hui. Et ma plus grande fierté, en tout cas dans mon métier, c'est l'association, comme je l'ai dit, c'est UP, Humour d'utilité publique, essayer d'aider les enfants malades, et peu importe la maladie, et en tout cas essayer de faire du lien entre tout le monde et d'essayer de rassembler.
Donc on va sur Internet, on tape UP et on vous trouve facilement.
Sur Instagram, ouais. Sur Instagram, UP, Humour d'utilité publique, Asso UP, et vous trouverez facilement... Ça.
On y va tous.
Exactement. Et oui. Merci beaucoup. Ouais. Franchement, on a besoin de force. On est une petite association qui vient de se créer, donc on a besoin de force, ça c'est sûr.
On sera là.
Merci.
Mais vraiment. Imaginons que vous écriviez un livre considéré comme un chef-d'œuvre. Quel serait le mot de la fin ?
Le mot de la fin. Ah, c'est putain, que des questions pièges, hein. Vraiment que des questions pièges. Le mot de la fin, ben au revoir, je sais pas moi. Bonsoir, merci, à bientôt, tchuss, hasta la vista.
Ok, allez, je prends alors, on prend. Okay. Merci infiniment, Merwan Sali. Vraiment, merci d'avoir partagé votre histoire avec autant de générosité, votre énergie et surtout votre parcours est une véritable leçon d'espoir. Et pour suivre l'actualité de Merwan Sali, retrouvez-le vraiment sur ses réseaux sociaux et n'hésitez pas à aller le voir aussi sur scène.
Merci beaucoup, merci vraiment. De l'invitation Sabrina.
On rappelle l'association UP, allez-y, il a besoin de vous.
Ouais, on a besoin de vous.
De
on
force.
A besoin de vous, on a besoin de sous. Non, je rigole. Mais on a besoin. On a vraiment
c'est un peu
besoin...
la vérité, peut-être. Hein
non,
c'est normal.
Même pas. On n'a pas besoin. Non, on a besoin de followers, on a besoin d'exister. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est le plus important. On a besoin d'exister aujourd'hui.
On va tous, justement, s'abonner sur votre page Instagram de exactement. L'association UP.
UP, Humour d'utilité publique. Merci.
Et n'oubliez pas, les amis. Peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas de bon cœur, vous ne valez rien. Bonne soirée à tous.
Hello papi, mais qui passe? J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya air. Crash encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta gata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta gata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça.
ta. Encore t'en a baby. Encore t'en a baby to the top. Encore t'en a baby.